Les dettes du crime.
Le régent Philippe tenait essentiellement à assister au sacre du pape afin de se poser en protecteur de la chrétienté. L'élection de Duèze m'a coûté assez de peine et de soucis, disait-il. Il est bien juste qu'il m'aide à présent à assurer mon gouvernement. Je veux être à Lyon pour son couronnement. Mais les nouvelles d'Artois ne laissaient pas d'être inquiétantes. Robert avait pris sans difficulté Arras, Avesnes, Thérouanne et continuait de conquérir le pays. À Paris, Charles de Valois l'appuyait en sous-main. Fidèle à son habitude tactique d'encerclement, le régent commença par travailler sur les régions limitrophes de l'Artois afin d'éviter l'extension de la révolte. Au baron de Picardie, il écrivit pour leur rappeler leur lien de fidélité à la couronne de France, leur faisant entendre courtoisement qu'ils ne toléreraient aucun manquement à leur devoir. Un contingent de troupes et de sergents d'armes fut réparti dans les prévôtés pour surveiller la contrée. Aux Flamands, qui se gaussaient encore au bout d'un an écoulé de la misérable chevauchée du Hutin perdant son armée dans la boue, Philippe proposa un nouveau traité de paix à des conditions fort avantageuses pour eux. « Dans ce gâchis qu'on nous laisse à débrouiller, il faut bien perdre un peu pour sauver le tout », expliqua le régent à ses conseillers. Bien que son gendre, Jean de Fienne, fût l'un des premiers lieutenants de Robert, le comte de Flandre, sentant qu'il n'aurait jamais si bonne occasion de traiter, consentit au pourparler et demeura donc neutre dans les affaires du comté voisin. Philippe avait ainsi pratiquement fermé les portes de l'Artois. Il envoya alors Gaucher de Châtillon négocier directement avec les chefs des révoltés et les assurer des bonnes intentions de la comtesse Mao. « Entendez-moi bien, Gaucher, vous ne devez point prendre langue avec Robert, » recommanda-t-il au connétable, « car ce serait lui reconnaître les droits qu'il réclame. Nous continuons de le tenir déchu de l'Artois ainsi que mon père en a rendu jugement. Vous allez seulement pour régler le conflit qui oppose la comtesse à ses vassaux et dans lequel Robert, à nos yeux, n'entre pour mi. » « En vérité, monseigneur, » dit le connétable, « vous voulez faire triompher en tout votre belle-mère. » « Non point, Gaucher, non point si elle a abusé de ses droits ainsi que je le crois. Elle est fort en périère, la dame Mao, et elle juge tout un chacun né exprès pour la servir, jusqu'au dernier liard de bourse et la dernière goutte de sueur. Je veux la paix, » poursuivit le régent, « et pour cela qu'il soit rendu équitablement à chacun. Nous savons que la bourgeoisie des villes reste favorable à la comtesse, parce que cette bourgeoisie est toujours en chamaille avec la noblesse, tandis que les nobles ont épousé la cause de Robert afin d'appuyer leur grief. Voyez donc quelles requêtes sont fondées. Et tâchez à y satisfaire sans porter atteinte aux prérogatives de la couronne. Ainsi, efforcez-vous de détacher les barons de notre turbulent cousin en leur montrant qu'ils peuvent obtenir de nous, par justice, davantage que lui par violence. Vous êtes prud'homme, monseigneur, vous êtes prud'homme assurément, dit le connétable. Je ne pensais pas qu'il me serait donné en mes vieilles années de servir avec tant d'agrément un prince si sage et qui n'a pas le tiers de mon âge. Dans le même temps, le régent faisait prier le pape, par le comte de Forez, de retarder un peu son couronnement. Jean XXII, quelque hâte légitime qu'il eût de voir son élection consacrée, accepta fort complaisamment un délai de 2 semaines. Mais au bout des 2 semaines écoulées, les affaires d'Artois étant encore bien loin de leur règlement, et l'accord avec les Flamands ne se pouvant ratifier avant le 1er septembre, Philippe demanda par le dauphin de Viennois, cette fois, un nouveau recul de la cérémonie. Or, Jean XXII, à la surprise du régent, se montra soudain très ferme et presque brutal, en fixant irrévocablement au 5 septembre son couronnement. Il tenait à cette date pour de puissantes raisons qu'il gardait secrètes, et qui échappaient d'ailleurs au jugement commun. En effet, c'était un 5 septembre, en l'an 1300, qu'il avait été sacré évêque de Fréjus. C'était dans la première semaine de septembre 1309, que son protecteur, le roi Robert de Naples, avait été couronné. Et si un faux en écriture royale lui avait permis d'obtenir le siège épiscopal d'Avignon, c'était le 4 septembre 1310 que sa manœuvre avait réussi. Le nouveau pape avait un bon commerce avec les astres et savait se servir des conjonctions solaires pour régler les étapes de son ascension.
« Si, monseigneur, le régent de France et de Navarre, que tant nous aimons, » fit-il répondre, se trouve empêché par les devoirs du royaume d'être à nos côtés en ce jour solennel. Nous en souffrirons beaucoup. Mais alors, n'ayant plus à craindre de lui faire trop long chemin, nous irons coiffer la tiare en la ville d'Avignon.
Philippe de Poitiers signa le traité avec les Flamands dans la matinée du 1er septembre. Le 5 à l'aube, il arrivait à Lyon accompagné des comtes de Valois et de La Marche, qu'il ne voulait pas laisser à Paris hors de sa surveillance, ainsi que de Louis d'Évreux.